La revue de presse internationale, bonjour Thomas Cluzel. Bonjour, et ce Guillaume. Matin, tout se paie ici-bas.
Oui, pendant près d'un quart de siècle, Yahya Jammeh a régné d'une main de fer sur son pays, la Gambie. Et à présent, les victimes de l'ancien dictateur forcé à l'exil l'an dernier après sa défaite à la présidentielle ont soif de justice. Parmi elles, on trouve tout d'abord les séropositifs, victimes de l'une des atteintes les plus monstrueuses de toute l'histoire de la crise du sida. Lorsqu'il était au pouvoir, Yahya Jammeh avait en effet annoncé à la stupéfaction générale avoir inventé un remède miracle contre la maladie. Et voilà comment, 10 années durant, des milliers de Gambiens ont été convoqués dans son palais présidentiel pour y recevoir le fameux traitement, une préparation secrète à base de plantes. Et à la fin, les malades ne pouvaient faire autrement que confirmer avoir recouvré la santé. Alors aujourd'hui, on ignore le nombre de personnes décédées par les procédés de charlatan de l'ex-président. Note le site d'information sud-africain Bekki Sissa. Reste qu'un an après le départ du dictateur, les victimes survivantes osent enfin désormais parler de ce qu'elles ont vécu. Et pour cause, tant qu'il était au pouvoir, elles auraient risqué la torture, la détention ou la disparition.
Et voilà qu'en plus de nombreuses récriminations dont il fait l'objet à l'intérieur de son pays, de plus en plus de voix s'élèvent désormais à l'étranger pour dénoncer l'ignominie de l'ancien dictateur gambien.
Oui, c'est le cas en particulier au Ghana où des organisations de défense des droits de l'homme demandent l'ouverture d'une enquête après la découverte d'une fosse commune contenant les corps de 12 Africains tués en 2005 par les junglers, cette force paramilitaire contrôlée par l'ancien président Jammeh qui s'est rendu coupable de nombreuses exactions. C'était le 22 juillet 2005. Avec 43 autres migrants, tous avaient décidé de prendre la route de l'Europe par la mer. Cette nuit-là, tous seront arrêtés par un bateau de la marine gambienne avant d'être torturés, puis conduits dans une forêt pour y être tués. Tous, sauf un, interviewé il y a quelques jours dans les colonnes du Guardian, Martin Kieré, originaire du Ghana, l'unique survivant de ce massacre, y raconte comment il a réussi à s'enfuir de cet enfer. Placé à l'arrière d'une camionnette, l'un de ses compagnons d'infortune s'était plaint de souffrir de l'épaule. L'un des militaires lui a aussitôt sauté dessus avec son couteau. Son bras a failli se détacher de son corps, dit-il. Nous étions tous attachés par les mains. J'ai alors senti que mes liens étaient lâches, puis j'ai réussi à m'en débarrasser avant de sauter de la camionnette et m'enfuir dans les bois. Les balles sifflaient au-dessus de ma tête, mais je n'ai pas arrêté de courir. Alors depuis ce jour-là, Martin Kieré s'est promis de ne pas se reposer jusqu'à ce que l'ex-dictateur soit enfin traduit en justice. Or, la semaine dernière, avec plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, il a appelé son gouvernement à ouvrir une enquête sur la base de nouveaux éléments de preuve. De sorte que si la relance des poursuites par le Ghana a lieu, elle pourrait déboucher sur une demande d'extradition de Yahya Jammeh afin qu'il réponde de ses actes devant la Cour africaine des droits de l'homme. Le problème, précise pour sa part le journal de Ouagadougou, le pays, c'est que Yahya Jammeh s'est réfugié en Guinée équatoriale, dont le président Obiang Nguema, conscient qu'il pourrait lui-même répondre un jour devant la dite juridiction de ses errements, n'acceptera pour rien au monde d'extrader Yahya Jammeh. Car les dictateurs sont ainsi faits, écrit encore l'éditorialiste burkinabé, qu'ils sont solidaires entre eux et ne se trahissent que très rarement. Reste qu'en rouvrant ce dossier, dit-il, les familles des victimes envoient néanmoins un message fort à tous les dictateurs africains qui, une fois pour toutes, doivent comprendre que tout se paye ici-bas, bon ou mauvais, le passé de chacun finit toujours par le rattraper.
Et de fait, même s'il n'y a évidemment rien de comparable, nombreux sont les politiques aujourd'hui à se voir rattrapés par les affaires, Thomas.
Oui, c'est le cas en particulier en Espagne, où près d'un demi-million de militants de Podemos sont invités à se prononcer à partir d'aujourd'hui sur l'avenir politique de leur leader, préviennent tour à tour les quotidiens ABC, El Mundo et La Razón. En cause, la révélation par les médias de ce que Pablo Iglesias et sa compagne se sont achetés. Une villa cossue de 268 mètres carrés avec une piscine et un jardin décrit comme ostentatoire. Alors l'opération n'a rien d'illégal. En revanche, si l'achat de cette villa provoque désormais un véritable scandale national, c'est parce que l'ensemble des partis politiques ont aussitôt saisi l'occasion pour moquer les goûts de riches des deux leaders de Podemos, lesquels se targuent pourtant de représenter les gens normaux et de dénoncer les privilèges de la caste.
Autre retour de bâton, alors cette fois-ci c'est en Suisse.
Oui, pour Pierre Maudet, c'est la dégringolade, tranche le temps après avoir été porté au pinacle. Voici que le conseiller d'État est tombé au rang de ministre sur le grill. Il aura suffi pour cela d'un voyage ambigu et encore énigmatique à Abu Dhabi pour que sa parole et même sa probité soient désormais publiquement mises en doute par nombre de politiques. Alors tous les ingrédients étaient réunis pour que cette affaire devienne explosive. Le moment tout d'abord délicat après les élections au Conseil d'État où le même Pierre Maudet a triomphé. Le soupçon du scandale ensuite, là où s'enchevêtrent invitation, luxe et pouvoir. Et enfin la personnalité du conseiller d'État genevois, lequel a souvent joué au redresseur de tort en se montrant impitoyable envers ceux qui dérapaient. Alors l'enquête de la justice dira si les circonstances autour du fameux voyage correspondent à un conflit d'intérêts. Reste qu'en attendant, toutes les rédactions de Suisse travaillent désormais sur d'éventuelles autres imprudences du conseiller d'État. Si les scandales ont souvent fait trembler la famille royale britannique, en revanche, les trois photos officielles du mariage qui s'étalent ce matin en première page de toute la presse outre-Manche ne transpirent, elles, que joie et bonheur. Enfin, si son visage à lui s'affiche à la une de toute la presse de son pays ce matin, ce n'est pas non plus pour répondre d'un éventuel scandale, pas plus d'ailleurs que pour annoncer véritablement des noces heureuses. Et pour cause, Giuseppe Conte, proposé pour diriger le premier gouvernement populiste d'Italie, est encore auprès de tous un parfait inconnu.